cache. La libération n'a pas touché les mœurs des gens. Et qu'est-ce qui, à votre avis, fera petit à petit évoluer les choses? Il faut encore le sacrifice de nombreuses femmes, comme vous le montrez dans un autre film qui s'appelle La Flamme et dont nous venons d'apprendre, qui méritera le prix, qui est le prix Marilyn.
Le prix du court-métrage.
Vous savez, вот то, что сейчас... То, что мы показали в фильме «Пламя», это, к сожалению, как сказать, такое чудовищное явление, которое существует. Вот только сейчас обнаруживается, что женщины наконец начинают осознавать, что не надо себя сжигать, а надо бороться.
Вот. Vous savez, ce que nous montrons dans ce film, c'est un phénomène totalement monstrueux et qui n'a pas vraiment de rapport direct avec une prise de conscience. Par contre, actuellement, la prise de conscience se fait petit à petit et les femmes commencent effectivement à comprendre qu'elles doivent lutter pour leurs droits et le mouvement de libération commence à se faire. C'est très petit à petit, mais ça se fait. Et les femmes commencent à comprendre qu'il ne s'agit pas de se brûler soi-même, mais de lutter pour leurs droits.
Например, вот у нас устраивается официальный, например, съезд женщин.
Par exemple, chez nous, on organise le congrès de la femme. Et ce sont des congrès qui sont destinés à montrer à quel point la femme est heureuse dans notre pays, ses droits, etc., épanouie. Et puis tout d'un coup, maintenant, seulement apparaissent des femmes qui montent à la tribune et qui disent « mais c'est pas vrai tout ça, voilà comment je vis, voilà comme je suis malheureuse ». Et ça fait des chocs immenses dans la société et ça éveille un peu toute cette conscience chez les femmes.
Или, например, вот с этим нашим фильмом, когда его показали, правда, один раз, его больше не показывают. Один раз показали ночью по телевидению, когда почти все женщины спят, но это вызвало огромное, как сказать...
Et notre film, par exemple, La Flamme, bien qu'il ait été montré une seule fois, et рано утром, да?
Поздно ночью.
Le tard dans la nuit, quand les femmes dorment déjà, malgré tout, ça a provoqué un énorme cri de réponse à ce film et on a reçu un énorme courrier de groupes de femmes, y compris de groupes non formels, c'est-à-dire non pas des groupes officiels, mais des groupes non formels qui ont demandé qu'on leur donne des copies de ces films et qui vont dans les différentes localités et qui animent des discussions autour de ce film.
Parce que justement, les femmes se réunissent, s'encouragent et discutent dans les familles, dans les maisons. Elles se retrouvent entre elles où il y a des groupes organisés de femmes.
Но это опять же все носит, как тебе сказать, сугубо формальный характер, когда они пишут о том, что они провели какие-то мероприятия, ставят галочки и так далее.
Но... Il existe officiellement un organisme qui s'appelle le Conseil des femmes, mais c'est quelque chose qui porte un caractère très officiel. Elles sont destinées à prouver que certaines mesures sont prises, comme ça on peut, bon, tout est bien noté, mais...
Они существуют при райкомах партии и при райисполкомах, понимаешь, то есть при, так сказать, официальных этих организациях тоталитарных.
Ce sont des organisations qui dépendent des organismes du parti ou de l'État, donc de façon très officielle.
Но и существуют параллельно еще, независимо от них, именно настоящие женсоветы, когда они сами по себе собираются и обсуждают свои проблемы и помогают друг другу.
На местах.
Да, на местах, в кишлаках, в селах, вот так.
Il existe également, parallèlement à ça, des conseils de femmes organisés spontanément dans les villages de montagne ou de plaine. Et là, au contraire, justement, c'est le contraire de formel, les gens cèdent. Discutent, etc.
Et quelle est la réaction des hommes face à cette nouvelle façon de réagir des femmes?
Vous savez, конечно, réaction неоднозначная. С одной стороны, им это естественно не нравится, но с другой стороны, нельзя смотреть спокойно, как женщины себя сжигают. Это же их жены, их дочери, их сестры.
Ce sont des réactions très diverses. En fait, ils ont des réactions qu'on ne peut pas dire à sens unique, parce que d'un côté, bien sûr, ça leur est fort désagréable de voir ces femmes qui se réveillent et qui exigent leurs droits, et en même temps, ils ne peuvent pas rester indifférents au spectacle de ces femmes qui se brûlent, qui s'immolent par le feu. Parfois, il s'agit de leurs femmes, de leurs voisines, de leurs sœurs.
Pour terminer, est-ce que pour vous, c'est important d'être venu montrer vos films ici au Festival de films de femmes de Créteil? Qu'est-ce que ça représente, ce voyage en Europe? Vous venez pour la première fois à Paris, vous nous avez dit.
Для меня это очень важно, потому что, во-первых, имеешь возможность понять, что ты со своими проблемами кому-то интересна. Оказывается, что есть люди, которые могут понять и тебя, и проявить интерес, и посочувствовать элементарно.
C'est très important pour moi parce que ça me fait comprendre que moi, avec mes problèmes que je montre dans mes films, qui semblent très lointains des vôtres, finalement, ils sont quand même compris et il existe des gens qui regardent avec attention et qui s'intéressent à nos problèmes.
Я думаю, что вот то, что вот сейчас, действительно, если наша картина получила приз, то это будет, как сказать, это будет уже какая-то реакция на это, понимаете? То это не будет просто фильм, да, уже будет что-то.
Le fait que notre film reçoive un prix ici, ça va provoquer une réaction chez nous.
Merci infiniment et bravo pour votre prix.
Moja mama jest przy forsie, a mój tatko Bóg wie gdzie. Czarną różę mam na gorsie i wesoło bawię się. Kadoanda la regatu, kadoanda taku. Czarną różę mam na gorsie i wesoło bawię się. Kiedyś będę grać na cytrze, będę cytrynówkę pić. Czy to pewne oczywiście, jakże śmiałabym z was kpić. Moja mama jest przy worsie, a mój tatko Bóg wie gdzie. Waręga, ręka, ręka, czarną różę mam na gorsie. Proszę państwa, nie jest źle. Kadu-adla, czarny gahu, kadu-adla, czarahu. Państwa nie jest źle. Gdy zostanę wreszcie carem, to urządzę wszędzie raj. Świat zamieni się szampanem, jak najpewniej, naj, naj, naj. Moja mama jest przy worsie, a mój tatko w budzie gdzie. Czarną różę mam na gorsie, czarną różę itp. Haj, waru, waru, waru.
Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute Remue Ménage, Onde Femme 93.8 MHz. Nous sommes ici en direct avec vous de parler de Créteil. Vous pouvez toujours nous téléphoner et donner vos commentaires. Nous parler aussi peut-être Créteil si vous y êtes allé. C'est le 50 40 51 41 023 depuis la Suisse.
Isabelle, c'était quoi cette musique étrange qui était bien swingante comme ça hein?
Alors c'est le swing polonais. C'était Marila Rodowicz qui nous chantait ses chansons.
Donc Marila Rodowicz, c'est une polonaise.
Polonaise.
Et c'est ça qui nous fait partir en Pologne avec le prochain film dont nous avons envie de vous parler.
Tout à fait. Alors donc on a continué, nous, sur la lancée de Vent d'Est, donc cette section qui était très présente au festival. Et on a eu envie de voir un autre film, un film polonais, de Magdalena Lazarkiewicz, La dernière sonnerie. Alors, on va vous transmettre maintenant le récit de ce film. En fait, c'est Laurence qui raconte pour nous le film de la dernière sonnerie. Laurence, c'est notre antenne d'onde femmes à Paris. Oui, sachez bien, on a même des femmes à Paris qui travaillent pour nous.
Correspondantes.
Et on en a aussi une autre femme avec Laurence. Il y avait aussi Bénédicte qui nous a... Les deux nous ont rendu des grands, grands services. Lorsqu'on y était là-bas, elles nous ont préparé, elles ont pris des rendez-vous. Elles sont venues avec nous, on a eu des bonnes discussions. Donc, elle nous raconte le film « La dernière sonnerie » de Magdalena Lazarkiewicz. L'action se passe dans un lycée.
Avec bien, plein de beaux adolescents, jeunes filles, jeunes garçons, vers 18 ans à peu près.
Donc, la première chose à dire, c'est qu'on est en Pologne. Hein?
Oui, bien sûr qu'on est en Pologne. Oui. Et donc, ils préparent leur bac tous. Et il y a un jeune adolescent qui a été viré de son ancien établissement scolaire pour avoir distribué des tracts qui arrive dans cette classe. Alors il est plein d'initiatives, plein d'esprit rebelle. Tout le monde l'aime beaucoup, il est assez beau. Et bon, la classe est très vivante, très dynamique, ils chahutent leur professeur et on sent qu'il y a une profonde connivence entre tous. Et tout ça, c'est donc sur un fond de politique polonaise, tout ce qui se passe là-bas, on sent l'oppression et on sent ce désir de libération de tous ces jeunes. Et
il y a un autre élève qui arrive dans la même classe et qui se fait aussi un peu
opérer. L'autre élève y est déjà, il s'appelle Swir, je crois, oui. Et en fait, il sort d'un établissement psychiatrique. C'est quelqu'un de très sensible, qui joue de la musique, qui joue de la guitare, qui chante, qui est très créatif, mais on le sent très fragile en fait. Et il devient très copain avec donc l'autre qui est un peu un meneur. Et alors ce jeune homme qui est assez fragile a un père qui est horriblement violent, autoritaire, et qui fait partie du côté de l'oppression, quoi. Et alors son père a aussi un copain du directeur adjoint de l'école. Et d'ailleurs, dans le film, à un moment, on les voit ensemble. Donc le père est le directeur adjoint et le père raconte à son ami, tu sais, moi je suis un chasseur, je sais comment tuer un troupeau. Pour tuer le troupeau, il faut trouver le chef. Et quand tu vois le chef, tu lui tires dessus. Une fois que tu as tiré le chef, tous les autres tombent. Et en fait, cette phrase, je trouve, elle est assez symbolique de tout ce qui se passe dans le film. Parce que le jeune garçon qui arrive dans la classe de lycée, qui est un peu meneur, devient le point de mire pour la direction du lycée. Et en fait, c'est à lui qu'on en veut. Et je suis sûre que... Bon, et ils se disent, si on l'a lui, on aura la classe entière, quoi. Alors, naturellement, dans l'école, il y a une charmante jeune femme très belle et très sympathique qui est professeure et qui se met du côté des élèves et qui crée avec eux une troupe de théâtre. Alors, la question aussi est de savoir, pour la direction du collège, est-ce qu'on laisse cette troupe de théâtre exister ou est-ce qu'on l'interdit ? L'autorité veut qu'on l'interdise. Par contre, le directeur adjoint, qui est vraiment super malin, dit non, on va les laisser faire du théâtre, c'est une soupape. Comme ça, on arrivera à les maintenir. Et alors, donc cette jeune professeure femme joue du piano merveilleusement bien. Ils créent ensemble un spectacle donc avec tous les élèves du lycée. Et ce spectacle est vraiment plein d'imagination. On sent un peu le côté poète de poésie quoi, de la Pologne et en même temps ce côté rebelle des étudiants. Moi, je trouve ça très bien fait, quoi. Et puis, ils donnent leur représentation devant un jury et il se trouve qu'ils sortent gagnants, bien sûr, et ils iront passer dans un autre jury à Amsterdam. Alors, naturellement, ils sont très contents. Mais bon, on sent que... Et puis alors, malheureusement, à la fin du spectacle, arrive le père du jeune Swir, donc l'étudiant qui, lui, est très fragile. Il vient chercher son fils. Alors là, moi, j'ai fait un rapprochement avec le cercle des poètes disparus. Je trouve assez étonnant qu'on retrouve exactement le même canevas, quoi. Puis surtout, le même canevas dans un pays... donc pour le cercle des poètes disparus, dans un pays comme l'Amérique, donc ouest, et puis retrouver le même canevas dans un pays de l'Est, la Pologne. Alors ça, je trouvais ça assez curieux. Et alors donc le fils suit son père, il obéit à son père, et peu après on le retrouve dans la classe d'examen du bac. Il vient passer son bac et en fait il est incapable d'écrire. et il s'en va. Derrière lui était assis le meneur qui s'inquiète, mais enfin lui, bon, il faut qu'il passe son bac. Et donc il écrit, mais en même temps il est inquiet. Et puis pendant ce temps, on voit sourire le jeune étudiant qui va dans la cuisine, il ouvre le gaz et il se suicide. Bon, de nouveau la même chose que dans le cercle des poètes disparus.
Alors après les vacances, tous ces jeunes se retrouvent dans la forêt. Entre-temps, c'est noué une idylle, bien sûr, entre la jeune professeure et le meneur. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'à l'oral du bac, le directeur adjoint vide en fait le meneur de la classe en lui posant des questions pièges. Et il lui dit, vous ne savez pas, vous êtes exclu, vous partez, vous ratez votre bac, etc. Alors la jeune professeure, indignée de cette impartialité, démissionne et s'en va. Bon, alors après donc, les vacances, on les retrouve dans la forêt. Et à ce moment-là, des chasseurs arrivent, dont le père du jeune garçon qui s'est suicidé. Et ils tirent, et les jeunes s'enfuient, ils tombent. Enfin, il y a une espèce de scène de violence qui, d'après la réalisatrice, est symbolique de l'oppression qui règne donc, là-bas en Pologne. Et les étudiants donc, se sentent quand même toujours menacés par une autorité. Et on les voit partir sur le chemin avec des vues sur les arbres qui tournent et on les voit d'en dessous et ils chantent une chanson dite révolutionnaire et symbolique. Et alors là, grosse gaffe, alors là je sais pas, ça tombe complètement à plat dans ce festival. Ils chantent « Nous continuons notre route avec de l'espoir comme les hommes qui ont du courage et nous n'aurons pas la même attitude que les femmes qui elles sont larmoyantes, elles se plaignent tout le temps ».
Donc la musique qu'on écoute là de Marila Rodovic, c'est pas du tout la même musique qui était à la fin du film. Donc cette musique et puis ce chant, donc il disait que soyons forts comme les hommes et pas faibles comme les femmes, eh ben elle a suscité des huées énormes de la salle et aussi après lors du débat avec la réalisatrice Magdalena Lazarkiewicz qui a donc tout fait ce film, La dernière sonnerie, il y a aussi eu beaucoup de critiques. Lors du débat, j'ai envie de parler un peu du débat auquel j'ai assisté avec Laurence. Magdalena Lazarkiewicz a beaucoup parlé de la politique culturelle sous le régime de Jaruzelski. C'est en fait les questions qu'on lui posait. Et on va pas retransmettre ça parce que c'est assez connu. Mais on a envie en fait de vous transmettre la réponse de Magdalena à une question sur la situation actuelle post-socialiste, si on peut l'appeler.
Ce que ça va devenir. Oui.
Mais de la politique culturelle. La question posée à Magdalena était de savoir quelle sera l'influence des bouleversements économiques actuels sur la production cinématographique future en Pologne et si les faiseuses et faiseurs de films s'organisaient pour faire face à la pression économique d'un cinéma rentable.
Tak, oczywiście, aczkolwiek jest to bardzo dalekie od naszego myślenia i musimy kompletnie zmienić myślenie na temat naszej roli, naszej funkcji. Oui, bien sûr, c'est tout à fait le problème auquel se butent les réalisateurs polonais. Et ils se regroupent, mais ça demande un changement total du mode de pensée. Comme j'avais déjà dit, aujourd'hui, quand nous pouvons faire ce que nous voulons, nous pouvons exprimer ce que nous voulons, nous ne trouvons pas d'argent pour ça. Il est difficile, d'autre part, de défendre la production cinématographique au moment où dans le pays, tout s'écroule. Il y a tant de problèmes pour lesquels il faut intervenir immédiatement que nous-mêmes, nous nous sentons dans une situation complètement ingrate. Et donc, ce domaine ne se prêtera pas très facilement à adopter les règles capitalistes. Étant donné que le monopole de l'État avait été enlevé, le monopole de l'État en ce qui concernait la production cinématographique a disparu, les unités de production, ce sont des unités de réalisateurs jouissent aujourd'hui d'une certaine autonomie pour trouver leurs propres moyens de trouver le financement. Je pense que ça amènera à créer les règles du marché naturel. Et parce que, par exemple, des sociétés occidentales essayent de en bénéficiant de cette situation, se mettent à produire des films faciles, commerciaux, des comédies. Par exemple, il y a un projet de vente d'une chaîne de télévision polonaise aux producteurs occidentaux, ce qui évidemment amènera à une commercialisation totale de cette chaîne. Une grande partie des réalisateurs s'y opposent évidemment, il y a un grand rejet de refus de ce projet. Très vigilant parce que le capitalisme naissant présente une forme vraiment très féroce actuellement.
Jedyną zdobyczą wymierną tego dotychczas to jest szerzące się bezrobocie, również wśród filmowców.
Et donc pour l'instant nous pouvons voir le résultat primordial de cette situation, c'est le chômage qui commence à prendre de grandes proportions et aussi parmi les réalisateurs.
Gdzieś na dnie dna też bal wielki trwa.
Każdy w życiu ma karnawał, ty i ja.
Koronę na głowę włóż.
Koronę na głowę włóż.
My kochani i kochani, ostrąceni i wybrani, lokatorzy cudzych marzeń, bohaterzy wielkich zdarzeń, dzieci ziemi nieserdecznej, samotności niebezpiecznej. Raz popłaczmy się jak baba.
Cette musique est censée être jamaïcaine puisque c'est Anita Marley qui chante. Et c'est sur cette terre que nous vous invitons à la soirée qui avait pour thème « Avenir métis ». Alors qu'est-ce que c'était que la soirée Avenir Métis ? En fait, cette soirée a une histoire. Je ne sais pas si certaines d'entre vous avaient déjà écouté notre retour de Créteil l'année passée, à peu près à ces mêmes dates, lorsque Marianne et moi nous y étions allés. Nous avions parlé d'un incident qui avait eu lieu lors de la soirée consacrée au cinéma des femmes noires. Effectivement, lors de cette soirée, avait éclaté une sorte de mini-drame, mais plutôt grand drame, je crois, à voir la façon dont il a touché les unes et les autres, dans la mesure où les femmes noires avaient accusé les organisatrices de racisme à leur égard, dans la mesure où elles avaient fait toute la programmation de leur film dans une salle qui se trouve à côté du palais de Créteil, c'est-à-dire qui n'est pas le lieu vraiment central du festival. Bien sûr que Jackie Buette et Elisabeth Tréhard ont ressenti cette accusation très durement parce que je pense quand même que c'était très loin d'elles l'idée de faire un acte discriminatoire à l'égard des femmes noires. Mais ce qui a été mis en évidence, je pense, et qui est resté dans la tête des organisatrices, c'est qu'il y a eu en tout cas
une forte incompréhension entre les deux communautés, entre les diverses cultures, et qu'effectivement, des sensibilités différentes ont amené à un moment donné à une incompréhension, et peut-être à cause d'une, effectivement, peut-être d'une tactique pas très bien sentie, eh bien, cela a provoqué des fortes sensations chez les unes et les autres, qu'ils n'ont pas très bien compris ce qui se passait, ou d'un côté ou de l'autre. Donc, les organisatrices ont eu envie de prolonger ce débat qui avait eu lieu ce soir-là sur la compréhension des communautés, la compréhension des cultures différentes, comment se tolérer, comment se comprendre et comment utiliser la force des divers apports culturels qui coexistent dans une population dans n'importe quel pays du monde et surtout en Europe où il y a un grand mélange de populations. Et puis, il y avait aussi eu l'affaire du voile, du tchador dans les écoles françaises qui ont bouleversé beaucoup de gens aussi sur ce thème. Est-ce qu'il faut, oui ou non, accepter que les jeunes filles portent leur tchador en classe et tout? Il y avait eu un grand débat, vous vous souvenez, qui, bien sûr, a aussi interpellé les organisatrices du festival et qui a contribué encore à montrer la nécessité d'avoir un nouveau débat sur le métissage, c'est-à-dire la rencontre de plusieurs communautés. Et pour illustrer ce thème, eh bien, un film a été choisi. Il s'appelle « De lait et de miel », réalisé par Rebecca Yates et Glenn Salzman, qui sont canadiens, et avec la comédienne Josette Simon, je la cite parce qu'elle était là ce soir-là. Et ce film est un film très chouette, on se sent très bien parce qu'on part de la Jamaïque. Et oui, ça commence ici. Et c'est le départ de l'héroïne qui doit quitter son jeune garçon, qui doit avoir 4-5 ans à ce moment-là. Elle quitte sa famille. Et on découvre qu'elle va effectivement émigrer au Canada, où elle a trouvé une place de jeune fille au pair dans une famille bien comme il faut, où Madame travaille avec beaucoup d'énergie, Monsieur travaille avec beaucoup d'énergie, et ils confient leurs enfants à notre héroïne. Je me rappelle déjà plus. Bref, vous me pardonnerez de ne plus me rappeler le souvenir, le nom de l'héroïne. Et puis on découvre tout au long du film que les lois d'immigration au Canada sont loin d'être beaucoup plus tolérantes que les lois d'immigration suisse, puisque, ou française même, je crois, et puisque notre héroïne n'a pas le droit de faire venir son fils, bien évidemment. Elle n'a pas le droit de changer de travail et elle doit attendre de longues années pour obtenir enfin le permis qui lui permettra de faire venir son enfant. Elle ne va pas attendre tout ce temps-là. Elle vit tellement triste, loin de son enfant, et se rendant compte qu'elle accorde toute sa tendresse à des enfants qui ne sont pas les siens, finalement, elle va faire venir son fils pour les vacances de Noël. Et là, sur les conseils d'une de ses amies qui, elle, se rend compte qu'elle a beaucoup trop attendu pour revoir ses enfants et qu'elle ne les reverra peut-être même jamais, jamais elle n'arrivera à obtenir sa carte, qu'on lui refuse toujours sur 1000 prétextes, eh bien elle lui conseille d'enfreindre la loi et de garder son fils. Et à la dernière minute, à l'aéroport, elle va effectivement décider qu'elle va le garder clandestinement à Montréal. Et alors là, avec l'appui d'un maître d'école qu'elle avait rencontré à une occasion, eh bien ils vont faire accepter clandestinement le garçon à l'école. Et ils seront découverts par le service d'immigration. Elle sera renvoyée en Jamaïque. Lui, le maître d'école, sera renvoyé de l'école. Mais tout finit comme dans tous les contes de fées. Et ils se retrouveront tous en Jamaïque, accueillant le maître de classe qui s'étalera dans la rivière sous les yeux de tout le monde et au grand rire de tout le monde, mais à la grande joie de tout le monde, bien sûr. Alors, ce film a été censé être le point de départ du débat, mais très très vite, on s'est trouvé dans bien d'autres discussions concernant le métissage. Alors, nous avons participé à ce débat, Isabelle, et on avait bien envie de vous faire partager quelques-uns des moments forts de ce débat.
Donc, en gros, le débat n'était pas toujours intéressant. Il y avait quelques intervenantes qui étaient très bien. Donc, on va d'abord vous faire passer justement l'intervention d'une femme beurette, paraît-il, on dit, et qui est au Parlement européen. Et puis elle parle avant tout de la politique culturelle qu'il faudrait avoir et l'accent qu'il faudrait mettre la politique culturelle dans un pays, dans une société qu'on connaît dans beaucoup d'endroits et de plus en plus aussi en Europe, où il y a brassage de culture.
On vit dans des pays désespérément blancs. Parce que tout le monde est métisse, j'en suis certaine, moi qui est berbère d'origine lointaine, sûrement afghane et puis russo-balte, sûrement quelque part, je suis bien convaincue qu'on est tous des métisses. Mais je crois que justement, la question, c'est qu'il y a des métisses qui se voient et il y a des métisses qui ne se voient pas.